Ça va se passer ce soir sur la scène du Palais des Festivals à Cannes. Il y aura des pleurs, des sourires, des déceptions, bref, des prix seront remis, dont la Palme d'Or. À l'heure où je vous parle, on ne sait encore rien du palmarès, mais une chose est sûre et certaine, il manquera un ou une lauréate, la compositrice ou le compositeur de la meilleure musique de film. Ce prix qui salue l'importance des bandes originales existe pour la cérémonie des Oscars ou des Césars, mais à Cannes, rien. Ce matin, Popenko décerne donc sa palme des musiques de films et l'élu de ce samedi s'appelle Ennio Morricone. Morricone, génie pas commode, dont l'œuvre est un continent. Je vous propose la réécoute d'un Pop and Morricone avec les partitions que le maestro a écrites pour Sergio Leone, Henri Verneuil ou encore Quentin Tarantino. Morricone a non seulement révolutionné la musique de film, mais il a aussi changé l'histoire de la musique pop et il l'influence aujourd'hui encore. La preuve, avec les Liminianas. Leur dernier album s'intitule « Des Pellicula » et on entrera dans les coulisses d'une chanson de ce disque dans la deuxième partie de l'émission. Jusqu'à midi, on regarde donc des films avec les oreilles parce que le cinéma s'écoute aussi. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Il a ses grosses lunettes carrées. Et il ne sourit pas. Il est calmement assis face à la caméra du cinéaste Giuseppe Tornatore qui consacre un documentaire à son œuvre. Et Ennio Morricone se met à chanter. Dans cette musique, il y a et le drame et la comédie. Sergio a adoré. Après, il y a trois instruments différents associés aux trois personnages.
Il buono, il cattivo, appunto.
Il buono, il brutto, il cattivo. Le bon, la brute et le truand, film de Sergio Leone, sorti en 1966. Morricone a composé plus de 500 bandes originales de films. Levé à 5 heures tous les matins, au boulot à 6. Une vie monacale, une vie entière dédiée à ses partitions. C'est l'histoire d'un jeune Romain qui a appris la musique dite sérieuse au conservatoire de Santa Cecilia et il se rêvait grand. Grand compositeur de musique d'avant-garde. Mais en attendant, il faut bien vivre. Et Morricone participe à la bande-son de la modernité italienne d'après-guerre. C'est la télé qui a besoin d'orchestrateurs pour ses nouveaux programmes. C'est Cinecittà qui a besoin de compositeurs. C'est l'industrie du disque qui a besoin d'arrangeurs. Aureliano Tonet vient d'entrer dans son bureau et dans Pop & Co. Il est journaliste au Monde, fin connaisseur de l'Italie et de Morricone.
Il arrive au bon moment. C'est le moment où l'Italie se modernise, elle s'industrialise, elle s'équipe effectivement en téléviseur, en radio. Et Morricone, finalement, se trouve effectivement aux avant-postes derrière son pupitre avec sa baguette. Il va faire l'aller-retour finalement dans cette période de formation entre ses études très sérieuses, très académiques. Il va s'immerger vraiment dans l'avant-garde de cette musique contemporaine d'après la Deuxième Guerre mondiale, qui est très sérieuse, presque dissonante, brutiste. Et en même temps, donc, il va se faire la main sur la musique légère, comme l'appellent les Italiens, cette pop qui se met en place juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il va aussi se frotter à des instruments qu'il n'avait pas forcément l'habitude de côtoyer au conservatoire. On lui demande d'orchestrer, de mettre des violons, de mettre des chœurs, mais aussi d'intégrer une batterie, une basse, une guitare électrique. Et c'est pas forcément des instruments qu'on recommande aux diplômés du conservatoire. Donc il va appréhender ce nouvel instrumentarium venu plutôt des États-Unis, venu de la pop. Hein. Ça va lui permettre finalement d'opérer une synthèse pour les premières bandes originales, notamment celle de Sergio Leone, mais d'autres évidemment. Et donc ce moment de formation entre la pop et le conservatoire, entre la RAI et le conservatoire, et bien c'est fondamental pour que Morricone trouve son style.
Ennio Morricone se fait la main en composant et en arrangeant la variété italienne, et parfois française, d'après-guerre. Il écrit pour la chanteuse Mina, pour Charles Aznavour et là, Gino Paoli.
Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale.
Il y a aussi une manière d'agencer les sons, l'orchestration morriconienne, c'est une orchestration qui respire, qui laisse le silence durer et qui isole chaque son de manière très distincte. C'est une manière d'écrire la musique presque en lien avec le cosmos, avec l'environnement. Ça respire énormément, c'est une musique pleine de souffle.
Sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
Sergio Leone a surtout entendu le travail de Morricone pour la RAI et pour des westerns. Dans leur enfance, ils étaient à l'école primaire tous les deux. 30 ans plus tard, ils se retrouvent simplement. Leone est allé frapper chez Morricone.
Bon, tout roule.
Tout roule. Stéphane Le Rouge a conçu un coffret Morricone qui couvre la période 1964-2015, ce qui nous fait 18 CD. Les 5 premiers sont dédiés aux musiques pour les westerns de Sergio Leone. En 1964, pour sa première collaboration avec Leone sur le film Pour une poignée de dollars, il va reprendre le thème d'une berceuse qu'il avait écrite pour un programme de la RAI.
C'est aussi l'idée de montrer que ces films-là ne sont pas des faux westerns américains, mais que c'est un regard européen et italien sur un genre, même si les acteurs, notamment la vedette Eastwood, est américain, mais que c'est un regard vraiment profondément décalé, oblique, transalpin, sur un genre américain.
Ces musiques de Morricone, ce fut aussi la bande-son de nos dimanches soirs. On regardait les films en VF et resterait pour toujours dans l'oreille le timbre de Jacques Deschamps, qui assurait le doublage de Clint Eastwood.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Oh.
Le bon, la brute et le truand comptent l'un des thèmes auxquels Morricone tenait le plus. On l'entend à la fin du film, l'extase de l'or, c'est le titre. Et Morricone le jouait toujours en conclusion comme un final de la séquence Sergio Leone pendant ses concerts.
C'est un thème important parce que il y a une dimension un peu justement d'ironie dans les premiers Leone. Et ce thème, c'est un peu le thème par lequel le lyrisme va entrer dans le cinéma de Leone. Et le film suivant, d'ailleurs, Une fois dans l'Ouest, va confirmer cette direction. C'est aussi la première fois où Edda De Lorso, donc la fameuse soprano, va devenir soliste dans un film de Sergio Leone. Et c'est un moment clé où les personnages se retrouvent dans ce cimetière
Le magot, le trésor, se retrouve est caché quelque part dans une tombe. Il faut trouver laquelle. Et Lee Wallach se met à courir comme ça de façon circulaire dans ce cimetière. Et il y a ce thème qui est construit sur un grand crescendo. C'est juste un thème de 8 mesures, mais répété, et qui vont gonfler comme ça jusqu'à l'obsession et jusqu'à la folie. Il y a une magie dans ce thème. Quand on voit la séquence, elle est absolument, mais je sais pas, elle vous hypnotise, elle vous emporte vers une sorte d'ailleurs. Et j'ai un souvenir, pas mélancolique, mais presque, quand avec Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque française, on avait conclu la rencontre qu'on avait organisé avec Morricone en fin 2018, la rencontre était conclue sur cet extrait-là. Et c'était étrange de voir Morricone tout petit sous le grand écran de la Cinémathèque qui jetait des petits coups d'œil sur l'écran, cette musique qui résonnait dans la salle, et la salle entière de la Cinémathèque qui lui a fait une ovation finale quand le thème final de l'Extase de l'or s'est terminé. Il était ému. Il y avait quelque chose qui le dépassait dans cette musique. Par exemple, il a toujours été le premier surpris que le groupe Metallica entre en scène sur cette musique-là pendant des années, quoi. C'est-à-dire que ce thème lui échappait à ce point-là et soit devenu un emblème de sa collaboration avec Léon, l'Extase de l'or. Pour moi, c'est ça. C'est le lyrisme qui entre, qui s'infiltre dans le cinéma de Sergio Leone.
Blondin, les voilà les dollars, les voilà les dollars.
Tu veux rigoler, hein, Blondin, tu veux me faire une farce, t'as voulu, hein.
France Inter.
Ça, c'est pas une farce, c'est une corde.
Rebecca Manzoni.
Dépêche-toi de passer ta tête là-dedans, Touko.
Pop & Co.
Et ce matin, Pop & Co est Pop & Morricone. Ça, c'est pas du Morricone. C'est le générique d'une émission de France Inter, diffusée le 20 septembre 1969.
Ici le Théâtre 104, maison de l'ORTF à Paris, où François-Régis Bastide et Michel Pollack présentent leur magazine public « Le masque et la plume », réalisé avec le concours de Annie Cœur-Devet, improvisation musicale par le groupe d'études et de réalisation musicale.
Ce soir-là, le cinéma est au programme. Et Michel Pollack orchestre les critiques pour parler d'Il était une fois dans l'Ouest.
Jean-Louis Bory.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce film parce qu'en effet, ça ressemble qu'extérieurement à un western. Et que Léon a fait du western spaghetti et ça, c'est du western opéra. Nous sommes à la Scala de Milan et la Scala de Milan avec pour décor l'Arizona. C'est tellement bien réussi que les rochers qui doivent être vrais, on a l'impression qu'ils sont en carton. On a constamment l'impression d'avoir des coulisses, des portants, et le cœur des tueurs, tuons-le, ça dure 5 minutes, est-ce que tu vas tirer, ah, tu es lâche, on riboule des yeux, on se drape, moi j'adore ça, enfin, faut aimer l'opéra italien.
Thank you.
C'est une vraie réflexion qu'a eue Morricone avec le décalage du temps, quand on lui disait toujours « mais finalement, ce que vous avez écrit pour Sergio Leone, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus fort », il disait « oui et non ». Ce qui a le plus marqué, ce n'est pas forcément la musique en tant que telle, c'est la façon dont Sergio a su les accueillir, c'est la place qu'il a donnée organiquement à ma musique dans ses films. Et c'est ça qui rend ses musiques absolument fracassantes, et c'est ça qui fait qu'elles aient vraiment marqué le cortex de tant de spectateurs au fer rouge. Mais il disait « mais dans l'absolu, je pense avoir fait mieux ailleurs ». Ce qui était, de la part de Morricone, peut-être un peu cruel par rapport à son camarade Sergio Leone, puisque si Leone n'avait pas été là, la planète entière n'aurait peut-être pas découvert, en tout cas aussi vite, la puissance de feu de son écriture.
Si les bandes originales de Morricone créent une telle rupture dans l'histoire de la musique de film, c'est aussi parce que la musique met en scène le film.
La musique met en scène le film, puisque Leone a la chance de bénéficier de la musique avant même le premier tour de manivelle, ce qui est une méthode absolument miraculeuse qui existe uniquement dans la comédie musicale notamment. C'est aussi ce que Francis Lai va faire avec Lelouch, et ça permet au metteur en scène vraiment de penser à sa mise en scène, de penser au découpage, de penser au mouvement de caméra, de penser au déplacement des acteurs dans le cadre sur un rythme et sur un tempo qui est défini par le compositeur. Il était une fois dans l'Ouest, Claudia Cardinale, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois, et qui m'a toujours dit à quel point, finalement, le directeur d'acteur sur Il était une fois dans l'Ouest, elle m'a dit, c'était moins Sergio Leone que Ennio Morricone, qui était un directeur d'acteur invisible, mais il y avait ces grandes enceintes à Almeria, en Espagne, en Andalousie, où le film était tourné, qui lançait la musique de Morricone, donc le grand thème lyrique qu'Il était une fois dans l'Ouest, avec la voix magique, le timbre magique de Edda del Orso, la soprano de fétiche de Morricone, et que voilà, elle n'avait presque rien à faire, sinon à se déplacer sur la musique de Morricone. Et bien sûr, organiquement, ça donne l'impression qu'il y a quasiment un deuxième metteur en scène sur le film.
Allô, allô ?
Allô, Lionel ?
Oui.
Voici Lionel Limignana, du groupe The Limignanas, dont la musique a été influencée par les BO de Morricone.
Mon premier souvenir, c'est chez mes parents, mais j'étais vraiment gamin. Je devais avoir 8 ou 9 ans, ouais, un truc comme ça. Il y avait l'album de la BO de Il était une fois dans l'Ouest, qui était là, quoi, qui était dans le salon. Et en fait, le premier contact que j'ai eu avec Morricone, c'était pas musical, c'était vraiment un gros blocage sur la pochette de ce disque-là, d'abord. C'est la fameuse photo de Charles Bronson, enfant, sous une espèce d'arche en pierre. Et au-dessus de lui, il y a son frère qui vient d'être pendu, et il a son harmonica dans la bouche. Et autour de lui, il y a ces cow-boys au long manteau, comme ça, et qui n'étaient pas les cow-boys que j'avais l'habitude de voir dans les westerns habituels du cinéma du dimanche soir, quoi. C'était pas du tout les cow-boys de John Wayne, c'était autre chose, quoi. Ça m'avait vraiment intrigué, quoi. Et après, j'ai posé le disque sur la platine, et là, ça a été une espèce de...
Lionel ? Ça, on a été déconnecté.
Reprenons. Lionel Limignana avait l'album de Il était une fois dans l'Ouest à la maison. Il sort le vinyle, le met sur la platine du salon familial, quand soudain...
Il y a eu la découverte du thème de l'homme à l'harmonica, et particulièrement du son de guitare électrique, ce fameux son de guitare fuzz mélangé avec de l'écho, que nous on a recherché après toute notre vie sur tous les disques qu'on a essayé de faire avec les Limignanas. On essaye de souvent régulièrement de retrouver ce son de guitare là, quoi, qui est vraiment incroyable. truc qui faisait hérisser les poils, en fait, hein, et qui continue aujourd'hui, quoi. Je sais pas ce qui... C'était vraiment un truc complètement héroïque, comme ça. C'était la première fois que j'entendais une guitare électrique qui sonnait comme ça. Mais après, j'ai retrouvé des choses qui ressemblent à ça dans les Stones, par exemple, sur le son de guitare de Satisfaction. Puis après, quand j'ai découvert le garage punk et toute la musique que j'ai écoutée ensuite. Mais la première fois que j'entendais ce style de guitare électrique-là, c'était avec Morricone. Mais c'était au-delà de la guitare électrique. Il y avait vraiment quelque chose de bouleversant avec cet album. C'est toujours lié à l'enfance, parce que moi, je me rappelle très bien que dans les cours de récréation, quand j'étais gamin... Quand il y avait des simulations de duels comme ça, et il y avait des mômes qui chantaient le thème principal d'Il était une fois dans l'Ouest, quoi. C'était un cinéma et une musique qui était très populaire, même si on avait la plupart du temps pas vu les films, parce que je sais que j'ai eu le droit de voir Il était une fois dans l'Ouest beaucoup plus tard que ça, quoi. Parce que les films étaient trop violents. Et à chaque fois que je l'écoute, ça me retourne, quoi.
La musique de Morricone infuse dans la pop française et internationale aujourd'hui encore. Ce morceau, avec guitare morriconienne, figure sur l'un des albums des Limignanas, Malamore, c'est le titre, et voici un extrait. Et dire que tout a commencé avec ça. Comment est né ce son-là ? Un jour qu'il était invité à Rome par Ennio Morricone, le cinéaste Henri Verneuil raconte.
Au moment de la pause, Ennio me dit, vous voyez cet homme-là, il dit en montrant Sergio, El torturato, il me dit, c'est un torsionnaire, car quand on a enregistré la musique de Il était une fois dans l'Ouest, à 3 heures du matin, on était encore là avec les 120 musiciens, le solo d'harmonica ne lui plaisait pas. Et il disait pas ce qui lui plaisait, on ne savait pas ce qui lui plaisait. Et à 3 heures du matin, le pauvre harmoniste, il avait l'harmonica comme ça, il allait jouer le thème. Sergio Leone a bondi sur lui, il l'a pris à la gorge en lui disant « Tu vas me le donner ce son ?» Et c'est étranglé que l'autre a pu faire « Vous savez, ce ton d'harmonica qui graillonne, c'est parce que Sergio lui serre le cou. » Et là, il a dit « Voilà, c'est ça que je veux. »
La dernière collaboration entre Leone et Morricone sera pour « Il était une fois en Amérique ». Le film sort sur les écrans en 1984 et on regarde une scène avec les oreilles et la voix de Stéphane Le Rouge.
Là, un des petits garçons de ce gang de jeunes du Bronx joue de la flûte de Pan. Il s'appelle Cock Eye, œil de bite littéralement. Et il joue de la flûte de Pan. Et il y a une séquence là aussi qui commence de façon légère et qui va virer au tragique. C'est lors d'une attaque d'un garçon d'un gang rival et qui va aboutir à la mort. Et voilà, avec un effet de ralenti magnifique dans cette petite rue du Bronx, et Et là, la musique de Morricone, elle est sublime parce que Sergio Leone sait mieux que quiconque utiliser la musique de Morricone, c'est-à-dire en coupant complètement tous les autres éléments de la bande sonore. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a pas de bruitage, il n'y a pas d'effet sonore. C'est la musique de Morricone qui a le monopole complet de la bande sonore du film dans cette séquence qui est une charnière, puisque ces enfants à qui on va une fois pour toutes, on va leur voler leur enfance. Et ils vont comme ça presque grandir trop vite et passer immédiatement à l'âge adulte. C'est une séquence bouleversante. Et derrière la flûte de Pan, il y a un grand soliste, roumain en l'occurrence, qui est Georges Zamfir, déjà soliste notamment dans la musique du Grand Blond avec une chaussure noire de Vladimir Kosma, dans un autre registre, on pourrait dire. Et je trouve qu'il y a une rencontre magique entre Zamfir et Morricone sur ce film-là de Leone. Et quelque part, c'est un sommet et c'est en même temps un adieu.
Même si Leone veut éviter que Morricone écrive pour d'autres grands réalisateurs, Morricone met en musique beaucoup du cinéma italien des années 60 et 70. Pasolini, Bellocchio, Bertolucci, Argento. Et il y a aussi un cinéaste français, c'est Henri Verneuil.
Moi, je vais bientôt me retirer en Sicile. Alors je voudrais pas laisser un trop mauvais souvenir.
1969, le clan des Siciliens.
C'est passeport. Ça vous dit rien ?
Lino Ventura, Jean Gabin.
Bosquet, Péraire, Levallois. Mais dites donc, c'est un véritable plan de Paris. Non, j'avoue que ça ne me dit rien du tout.
Et c'est curieux parce qu'il met en musique des films français, des films anglo-saxons, mais il ne va pas comprendre le dialogue de ces films. Ce que disent les comédiens littéralement, il ne comprend pas. Alors, parfois on lui fait sous-titrer ou il a un exemplaire du scénario traduit en italien. Mais finalement, ça le conforte dans son idée que la musique doit apporter quelque chose qui n'est pas dans l'image, doit apporter une dimension supplémentaire, un état supplémentaire, doit être en contrepoint. Que la musique ne doit pas pléonasmer bêtement ce que le metteur en scène a déjà filmé. Donc finalement, je crois que ça l'arrange énormément de ne pas parler d'autres langues étrangères. Ça lui donne encore plus la possibilité d'être Morricone, en quelque sorte. Morricone trouvait que c'était sa partition presque la plus aboutie pour Verneuil parce qu'il y a ces guimbardes qu'il adorait, qui s'appellent les Maranzani, qui sont des guimbardes siciliennes et qui apportent un peu de Sicile dans cette Sicile, un peu de carte postale, parce que qui peut croire que Jean Gabin est un patriarche sicilien ? Ça paraît quand même assez curieux comme choix de casting. Et quand en face de lui, il est traqué par un commissaire, un policier qui est joué par Lino Ventura, qui lui vraiment est d'origine italienne, mais qui dans le film est un policier, est un commissaire breton, il s'appelle Le Goff. Donc c'est une inversion, c'était presque un défi complètement à la logique. Et je pense que Verneuil et Morricone ont dû quand même peut-être à la table de montage s'en apercevoir. En tout cas, Morricone, c'est sûr, parce que pour amener un peu de sicilianité, pardon, pour le néologisme à Jean Gabin, il lui a collé ces fameuses guimbardes comme un rappel de ses racines. Voilà. Et donc, ça apporte un peu de véracité au caractère sicilien de Jean Gabin. Il y a un peu de Bach, Morricone adorait Bach, et il y a ce prélude pour orgue de Bach qui va injecter dans le thème du film. Et comme Morricone est un expérimentateur, comme il vient de l'avant-garde, comme il ne peut pas s'empêcher de trouver dans le son, dans les sons des films, des points d'appui pour son inspiration. Et là, c'est ces sirènes de police françaises, parisiennes, pam, 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 qui vont le fasciner. parce qu'évidemment il est romain, Morricone, donc il n'a jamais entendu le son des sirènes françaises, des sirènes de police, et donc il va se servir de ça comme point de départ pour le thème d'Alain Delon, qui est d'ailleurs une sorte un peu de presque de jerk dodécaphonique, pam 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 ping pam 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 pam, et ça va tellement plaire à Morricone que quand il va retrouver Paris et le polar des années après, presque 20 ans plus tard, avec Roman Polanski sur Frantique, il va utiliser également ce même principe d'utiliser les sirènes de police. Enfin, donc Verneuil et Polanski reliés par un même compositeur et par un même principe de sirènes de police transposées dans la partition.
T'as la langue bien pendue, hein ?
Tiens, voilà Philippe Noiret.
Un de ces jours, je te la coupe, moi. Comme ça.
Nous sommes en 1988. Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore sort en salle. Ennio Morricone accepte d'en écrire la musique.
Et je pense que ce qui va aussi déclencher, ça être un élément qui va faire qu'il va dire oui à ce jeune cinéaste qui vient de voir en 88, Giuseppe Tornatore, c'est aussi le fait que Tornatore va lui dire « voilà, je veux travailler avec vous et j'ai envie que vous m'écriviez, que vous enregistriez la musique en amont du tournage pour que je puisse tourner sur votre musique ». Et finalement, qu'au moment où Sergio Leone va mourir, va disparaître, là, la collaboration avec Tornatore se noue en 88, et Leone va mourir en 89. Et savoir que quelqu'un lui propose de reconduire cette méthode fondatrice, avec quelqu'un qui a juste 30 ans à l'époque, donc c'est un jeune metteur en scène, et Morricone hésite, il se dit oui, pourquoi pas, et puis il voit que dans le scénario, il y a cette séquence qui va le bouleverser, où le personnage du petit garçon sicilien devenu adulte, joué par Jacques Perrin, revient de l'enterrement du projectionniste de son enfance, qui lui laisse un cadeau, et ce cadeau, c'est toutes les séquences de baisers que la censure locale sicilienne a coupées dans les films. Hop, on lui lance la projection de cette bobine, et là, il voit tous ses baisers enchaînés pour lui tout seul dans la salle. Morricone sait que cette séquence lui appartient. Il n'y a rien, il n'y a pas, là encore, comme parfois chez Leone, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'effet, il y a juste Jacques Perrin, qui regarde cet écran et les images où on voit Douglas Fairbanks, Toto, Charlie Chaplin qui embrasse des comédiennes. Et là aussi, Jacques Perrin va souvent raconter que Tornatore lui a dit « Écoute Jacques, tu vas découvrir ces baisers, tu vas entendre la musique d'Ennio, fais passer sur ton visage toutes les nuances possibles de l'émotion retenue jusqu'à l'émotion complètement relâchée, vraiment, joue avec tes larmes, et puis lui dit, on fera autant de prises que tu voudras. Jacques Perrin a entendu la musique de Morricone, il a vu les séquences de baisers, il s'est lâché complètement, et il n'y a pas eu de deuxième prise. Voilà. Et Morricone, évidemment, voilà, va abandonner un film américain qui s'appelle Old Gringo, avec Gregory Peck, pour faire la musique de cinéma Paradiso, et ça va être le point de départ d'une collaboration inconditionnelle avec ce jeune Sicilien de 30 ans, Tornatore, et un mois et demi avant la projection mondiale de cinéma Paradiso à Cannes, Sergio Leone meurt. Voilà. J'ai posé la question à Morricone, je lui ai dit « Mais Ennio, est-ce que vous y voyez une sorte de passage de relais ?» Et il m'a répondu « Je ne l'ai pas vu à l'époque, mais aujourd'hui, avec 30 ans de recul, c'est évident. » Il y a mon frère de cinéma qui est disparu et j'ai un fils de cinéma au même moment qui est entré dans ma vie.
Au Festival de Cannes, plusieurs films dont Morricone signe la bande originale reçoivent la Palme d'Or. Il y a « La classe ouvrière va au paradis » d'Elio Petri en 1972. Il y a « Mission » de Roland Joffé en 86. Ce prix-là va permettre à Morricone de travailler avec une nouvelle génération de cinéastes, dont Tornatore, mais aussi Polanski, De Palma ou Tarantino. Des réalisateurs qui ont été façonnés par les films qu'il a mis en musique. Et au milieu de tous ces noms de cinéastes prestigieux, Morricone va aussi consacrer du temps à des films de série B. En 71, par exemple, il écrit cette BO-là, celle de Maddalena, film de Jerzy Kawalerowicz. Je vous lis le résumé. Une femme doute de trouver le véritable amour dans une relation stable et sécurisée. Un prêtre pense qu'elle ne sera pas capable de faire face au célibat. lorsque la femme décide que le prêtre est l'homme de sa vie, la tension érotique et le questionnement sur la foi s'installent entre eux. Vous avez reconnu ce thème, Morricone va le réutiliser dans Le Professionnel de Georges Lautner avec Belmondo. Après, ça deviendra la musique d'une pub de croquettes pour chiens avec un berger allemand qui court au ralenti à travers champs. Finalement, il ne faisait pas de hiérarchie esthétique. C'est la première phrase de la prochaine intervention d'Aurélien Autonnet, journaliste au Monde.
Finalement, il ne faisait pas de hiérarchie esthétique dans sa manière de composer, c'est-à-dire qu'il peut être plus inspiré par un film de deuxième ou troisième zone que par le film d'un authentique génie. Peut-être, c'est une hypothèse parce qu'il n'a jamais formalisé les choses comme cela, mais peut-être que ces films de cinéma bis lui offraient une plus grande liberté. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la figure d'un auteur important. Hein, les cinéastes de ces films de série B sont des tâcherons, ils n'en imposent pas. Et donc Morricone n'a pas à lutter contre eux. Il est libre. Il est libre, il a le contrôle. Là où, quand il va finalement collaborer avec un grand nom du cinéma international ou italien, ce ne sera pas forcément aussi facile.
Et même, parfois, Morricone ne va pas y mettre du sien. Dans un article qu'Aurélien Autonnet a écrit pour Le Monde en juillet dernier, il rapporte ses propos que Morricone a tenus à la presse allemande. Tarantino est un crétin. Il n'a rien des grands d'Hollywood comme John Huston, Alfred Hitchcock ou Billy Wilder. Tarantino ne fait que du réchauffé. Après la publication, Morricone a nié et a même menacé le magazine de poursuites judiciaires. L'Oscar qu'il reçoit en 2015 pour une composition originale, c'est avec le film de Tarantino, Les 8 salopards. Et revoici Stéphane Le Rouge.
Morricone va hésiter. Il va se dire, finalement, je suis certain qu'il a tellement pris le pli de manipuler lui-même des musiques de son choix, que c'est que, même s'il m'admire, ça va pas marcher. Et finalement, quand ils vont se rencontrer, Morricone va se rendre compte que finalement, Tarantino va quand même, je dirais, lui foutre la paix, en quelque sorte. Et moi, très joliment, Morricone m'a dit, ce qu'il attendait de moi, c'était d'abord une musique de Morricone. Il a voulu que je sois libre. Voilà, ce qu'il voulait simplement, c'est ma signature. Moi, je trouve ça magnifique, parce que c'est à la fois une victoire, c'est-à-dire que Morricone restera le compositeur qui a converti Tarantino aux vertus de la musique originale sur un film. Donc, c'est à la fois une victoire, et c'est en même temps une source de frustration, parce que la collaboration, elle est arrivée très tard. Ben, j'aurais jamais pensé qu'il y aurait à ce point-là cette dimension testamentaire dans Les 8 salopards. Je voyais Morricone comme quelqu'un, moi, de, à la fois d'inépuisable et d'éternel. Je voyais vraiment une part d'éternité. Il avait surmonté tellement de problèmes liés à l'âge et à la maladie. Moi, personnellement, j'ai encore du mal à utiliser l'imparfait pour parler de lui.
Ricordare. En italien, ça veut dire se souvenir. C'est le titre d'une chanson que Morricone a écrite en 1994 pour Une pure formalité, un film de Tornatore. Et l'interprète, c'est Gérard Depardieu.
Ricordare, ricordare come un po' morire. Tu adesso lo sai, perché tutto ritorna anche se non vuoi.
Stéphane Le Rouge, que vous avez entendu tout au long de ce Pop and Morricone, Stéphane Le Rouge donc, a dirigé l'édition d'une anthologie de l'œuvre du maestro. C'est un coffret de 18 CD avec un livret copieux et ça a apparu chez Universal. De Pellicula, c'est le titre du dernier album du groupe The Liminianas et on entre dans les coulisses d'une de leurs chansons pour la suite de Pop & Co.
France Inter, Pop & Co, Rebecca Manzoni.
Même au milieu du grand hall de la maison de la radio, je ne pouvais pas les rater. Lui, avec sa longue barbe, elle, avec sa chevelure rousse, chacun dans ses boots, et une valise qu'il traînait depuis la gare. Lionel et Marie Limignana, dit « The Liminianas ». Ce matin-là, ils arrivaient de Cabestany, petite ville à quelques bornes de Perpignan, là où ils vivent depuis toujours. Lui est aux guitares, elle assure la rythmique, et ils viennent de co-signer un nouvel album, un road movie musical, l'histoire d'un couple en cavale. Les premiers mots du disque sont ceux-là. Il s'agit d'un petit mec de province. Il aime la musique et le cinéma, il va au lycée, mais il déteste ça. Ces quelques phrases sont un autoportrait de Lionel et Marie Lemignana.
Il y a un lycée qui s'appelle Jean Lursa à Perpignan. C'est un bahut qui était plein de punk, de skin, de reggae man, de rocker, de mods. Et c'est avec ces gens-là qu'on traînait en fait. Et on était complètement à l'écart de ceux qui faisaient du sport, qui suivaient les cours. Et faut pas, surtout pas que mon fils entende cette interview. On lui a toujours parlé du contraire, mais voilà quoi. En gros, c'était ce genre de profil-là quoi. Le tout premier groupe qu'on avait, ça s'appelait les Gardiens du Canigou, et c'était toujours dans des halos sports ou des cafés pourris, tu vois, des bars tabac. On allait jouer partout où on pouvait parce qu'il y avait pas de lieu. Mais ça donnait des situations qui étaient assez drôles et qui nous mettaient encore plus en marge de tout ce truc-là, quoi.
Vous avez fini par réussir à en vivre à partir de quel moment alors de la musique ?
Alors on n'a jamais cherché à en vivre. Ça nous est tombé dessus, plutôt. On s'est arrêté de bosser il y a quoi, 3 ans, quoi. On a 50 ans, en gros. On a commencé à jouer dans des groupes à 16 ans. Donc, on a passé toute notre vie à jouer, mais pour bien d'autres raisons que celle de gagner notre vie. C'était vraiment pour tourner, faire des disques. On a toujours fait ça.
Vous faisiez quoi comme boulot avant, alors, tous les deux?
Bon, alors, Marie a travaillé très longtemps à la médecine du travail. Mais moi, j'ai fait... mon boulot de base, c'est disquaire. Donc, j'étais disquaire indépendant. Mais c'est une période... où on a perdu plein de blé, à un moment donné on était obligé d'arrêter. Moi j'ai fait des tonnes de boulot alimentaire, j'ai bossé à l'usine, j'ai bossé dans les champs, j'ai fait des pernoles en chocolat, enfin j'ai fait plein de trucs.
Mais quoi ?
J'étais démouleur de pernoles en chocolat à un moment donné.
Faire carrière, ça n'était pas l'idée, mais plutôt faire des disques comme on part à l'aventure. Leur nouvel album s'intitule « Des Pellicula ». Il a été conçu à 6 mains, Lionel et Marie Lemignana, plus un DJ, producteur, musicien, pionnier d'électro, en deux mots, Laurent Garnier. Ce matin, on soulève le capot de ce morceau. Pour le chant, ils ont fait appel à un artiste qu'ils admirent, c'est Bertrand Belin. Belin est la voix et l'auteur de ce texte, intitulé « Au début, c'était le début ».
C'était le début. Puis vite, ce fut la suite. Le bois et le couteau, la foule et le poteau, l'autocapote, lécher la route. Les murs sont tachés, la porte est arrachée, les nuits sont des nuits d'amour, dures à digérer, un séjour sans secours, au sommet d'une tour penchée, la tranquillité. Le phono abandonné, je te garde beauté. Dans l'aridité, je te garde beauté. Pousse ton bras que je m'allonge. La journée m'a tué. La journée m'a tué.
La musique est signée Laurent Garnier, Marie et Lionel Lemignana. Lionel et Marie sont là, mais pour elle, le micro s'éniette. Alors Lionel me demande de préciser que c'est elle qui ne veut pas parler, en ajoutant « sinon, je vais me faire engueuler ». C'est donc lui qui raconte l'histoire de cette chanson. Au début, c'était le début.
Dès que j'ai une idée, je l'enregistre, parce que sinon je l'oublie immédiatement. Donc le départ de la chanson, c'était sur mon téléphone, c'est ça. Ça, c'est vraiment une guitare électrique contre le téléphone. Voilà, ça c'était pour pas oublier. Donc après, à la maison, on a fait ces guitares-là. Donc on a vraiment ralenti le tempo. Et si vous collez le beat de Marie par-dessus, on a ça. On a rajouté une basse. Comme d'habitude, avec ce groupe, on travaille que sur une tourne d'accords très simple, sur la répétition.
C'est-à-dire qu'il y a cette idée de quelque chose qui revient en boucle.
Exactement.
Comme une transe.
C'est exactement ça, c'est l'idée. C'est parce que c'est depuis toujours ce qu'on aime le plus dans la musique qu'on écoute, donc ça va être trois accords qui jouaient à l'infini, comme ça on rend fou. Parce que moi, c'est ce que j'aime le plus dans la musique.
Et juste, si on n'écoute que la guitare, il y a un moment où ça s'embrase.
On a rajouté une couche de fuzz, qui est un peu notre ingrédient secret.
Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que la couche de fuzz ?
C'est une boîte en fer. Quand vous appuyez dessus, la fuzz distorsionne le son. Il y a des tas de distorsions différentes. La fuzz est très particulière. Elle est connue, par exemple, pour être le son de riff de Satisfaction des Rolling Stones. Depuis tout gosse, hein, depuis je sais pas, 8 ou 10 ans, mais 8-10 ans. La première fois que j'ai entendu Satisfaction, par exemple, c'est vraiment le son qui rend fou, c'est vraiment ça qui était...
Ça vous a vrillé la tête.
Absolument, ouais. Et j'en mets à toutes les sauces. Nous, on fait un boucan pas possible dans la maison, à peu près en permanence, pour choper différentes manières d'utiliser la fuzz, quoi. Ça nous donne, sur scène, l'effet d'une espèce d'effet bombardier, comme ça, qui fait passer la chanson sur une autre étape, en gros.
Ce morceau s'est construit pendant le premier confinement, comme tout le reste de l'album d'ailleurs. Marie et Lionel Limignana ont échangé des idées avec Laurent Garnier via le net. Ça a été un ping-pong musical à distance. Et dans l'un des envois de Laurent Garnier, il y avait ça, un élément intitulé « Western ».
Il a à la fois... trouver ce thème qu'il a appelé western et qui est devenu en fait ce qu'on retient. Et ça fait, il y a un côté western mais moderne en fait, puisque c'est pas un instrument traditionnel du western, c'est ni un banjo ni une folk ni une douze cordes. Là il s'agit d'un synthétiseur et de musique électronique.
Dans l'intitulé des pistes qui m'ont été envoyées, il y en a une qui porte le titre suivant: une prise pour bien se prendre la tête.
Ça c'est Laurent. Oui. C'est une atmosphère qui est un peu sombre, un peu glauque, comme ça. Et j'imagine que c'était son objectif, que ça tourne un peu la musique vers quelque chose de plus cérébral, quoi.
Cette chanson, au début c'était le début, fait partie d'un récit, celui que raconte l'album entier. C'est l'histoire d'un amour entre Saul et Juliette. Ils prennent la fuite vers l'Espagne, et ça tourne mal.
Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant quand on l'a reçu, la manière qu'a eu Laurent de tordre ce qui aurait pu être une balade un peu facile et de l'amener sur un terrain qui était un peu plus celui de l'histoire, qui à ce moment-là est un peu glauque, puisque c'est le moment de l'histoire d'amour où la réalité prend le dessus et où on s'aperçoit que ça va pas être si simple que ça et que tout s'étiole autour d'eux. Nous, on a fourni quelque chose qui était en gros une balade à jouer à une fille au bord de la plage en début d'été. Là, d'abord avec Laurent et ensuite sur le travail de Bertrand sur le texte, ça va l'amener complètement ailleurs.
Est-ce qu'on peut écouter la voix de Bertrand Belin ?
Ouais.
Je te garde beauté, dans l'aridité je te garde beauté, pousse ton bras que je m'allonge, la journée m'a tué.
C'est la troisième fois que Bertrand Belin pose sa voix et un texte sur la musique des Limignanas.
Déjà c'est ce que je préfère de la chanson française, sa façon d'écrire mais sa façon d'interpréter aussi. Et comme d'habitude avec Bertrand, on n'a rien retouché du tout. Puis il y a aussi, Marie me l'avait fait remarquer la dernière fois, il y a aussi des boucles dans ces textes. Ça rejoint aussi notre manière de bosser, et Laurent Garnier et nous.
C'est-à-dire qu'il y a la boucle du motif de guitare, le riff.
Je te garde beauté.
La boucle des mots répétés dans le texte.
Absolument.
Dans l'aridité, je te garde beauté.
Et la boucle électronique.
C'est ça.
La journée m'a tué. La journée m'a tué.
Comme au début, on parlait de
pas avoir eu pour ambition de vivre de la musique un jour. Comment vous le vivez aujourd'hui, tous les deux, avec Marie ?
Il y a toujours cette espèce de... un peu de crainte que ça s'arrête, mais en même temps, c'est pas vraiment un flip, parce que je sais que s'il fallait reprendre un boulot lambda, je le ferais sans aucun problème, mais c'est pas forcément l'aspect financier le plus important, très sincèrement. On vit à peu près de la même manière qu'avant, c'est juste qu'on a vécu des trucs qui étaient vraiment hallucinants ces 5 dernières années, quoi.
Le rêve, quoi.
Ouais. Absolument, ouais.
Au début, c'était le début. Mais vite, ce fut la suite. Le feu au château, l'oiseau. La neige crado, la mort du frigo, la porte est arrachée, les nuits sont des nuits d'amour, dur à digérer, un séjour sans secours, au sommet d'une tour penchée. La tranquillité, la journée, le phono abandonné, je te garde beauté, dans l'aridité, je te garde beauté, tout en moi que je m'allonge, la journée m'a tué, m'a tué.
Des Pellicula, c'est le titre du dernier album des Liminianas et de Laurent Garnier. Le groupe est en concert à Saint-Brieuc le 3 juin, à Gignac le 29 juillet ou encore au festival Rock en Seine à Saint-Cloud le 26 août. Coy Nguyen a réalisé cette émission avec Élise Christophe ce matin. Ilinka Negulesco assure la préparation de l'émission et JB Audibert la programmation musicale. La semaine prochaine, il sera question de Stéphane Escher, Michel Delpech, Serge Gainsbourg ou encore Désirless, grâce au parcours d'un homme qui a façonné nos oreilles. Il s'appelle Dominique Blanc-Francard. À samedi